Les trous noirs sont donc des astres invisibles. Ce concept d'astre invisible a été imaginé par deux astronomes de la fin du XVIIIe siècle. L'un était un révérend anglais, John Mitchell, l'autre était le célèbre marquis de Laplace. Dans le cadre de la théorie de l'attraction universelle, élaborée un siècle plus tôt par Isaac Newton, ces deux astronomes s'étaient interrogés sur la possibilité qu'il puisse exister dans l'univers des astres si massifs que la vitesse de libération à leur surface puisse dépasser la vitesse de la lumière. La vitesse de libération, c'est la vitesse minimale avec laquelle il faut lancer un objet pour qu'il puisse échapper définitivement à l'attraction gravitationnelle d'un astre. Par exemple, à la surface de la Terre, cette vitesse de libération est de 11,2 km par seconde et c'est la vitesse minimale requise pour envoyer des fusées dans l'espace. Et si cette vitesse de libération dépasse la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, eh bien l'astre est nécessairement invisible, puisque même les rayons lumineux resteraient prisonniers de son champ de gravité. Donc c'est ce raisonnement qui avait été tenu par Mitchell et Laplace, qui avait donc décrit le prototype de ce que l'on appellera beaucoup plus tard, en 1968 seulement, un trou noir, et dans le cadre d'une autre théorie de la gravitation, la relativité générale. Mitchell et Laplace avaient toutefois calculé les bons ordres de grandeur qui caractérisent l'état de trou noir. Par exemple, un astre qui aurait la densité moyenne de la matière ordinaire, l'eau, le bois, c'est-à-dire 1 gramme par centimètre cube, et une masse correspondante de 10 millions de fois la masse du Soleil, eh bien serait invisible. Un tel corps est aujourd'hui nommé trou noir supermassif. Mais les astronomes soupçonnent l'existence de trous noirs supermassifs au centre de pratiquement toutes les galaxies. Évidemment, il est hors de question de considérer que ces trous noirs supermassifs au centre des galaxies soient constitués d'eau. Alors, plus commun encore seraient les trous noirs dits stellaires, dont la masse serait de l'ordre de quelques fois la masse du Soleil, et le rayon critique du trou noir, que l'on appelle le rayon de Schwarzschild, d'une dizaine de kilomètres seulement. Pour bien se rendre compte de l'état de concentration de matière extrême qui règne dans un trou noir, on peut indiquer que pour transformer artificiellement, bien sûr, le Soleil en trou noir, car comme nous le verrons, le Soleil ne pourra jamais devenir naturellement un trou noir, eh bien il faudrait le réduire à une simple boule de 3 km de rayon. Et quant à la Terre, il faudrait carrément l'écraser en une bille de 1 cm. Alors malgré cette première description des trous noirs dans le cadre d'une théorie newtonienne de la gravitation, il s'est avéré qu'en fait les trous noirs étaient des objets purement relativistes. C'est-à-dire qu'une théorie cohérente des trous noirs n'a pu se développer véritablement qu'au XXe siècle, dans le cadre d'une autre théorie de la gravitation, plus sophistiquée, plus performante que la théorie de Newton, et qui est la théorie de la relativité générale, élaborée par Albert Einstein en 1915.